neue Baumaterialien, neue Ingenieurswissen, die Evolution am Kunsthandwerk an der Fortschritt von der Wissenschaft hatten die traditionelle Ausbildung von den Architekten auf den Kopf geheilt. Den Historismus integriert die neue Art der Weise, wie zu bauen, wie verstopft sie unter dem traditionellen dekorativen Kleid. Die neue Kunst versucht, Kunsthandwerk abzuwerten, indem sie sich und die Formen von der Natur inspiriert. Den Art Deco kennt so um 1925 ab, mehr verschmilzt schnell mit dem Modernismus. Lützeburg hat Beispiele von seelener Qualität von diesem Stil versucht, den sowohl der Park für im Haus auszeichnet, wie Gebäude mit Appartementen und Kommerzen. Weitere Informationen zu der Emission, Fotos, Material oder Hinweise auf einer Evenement im Zusammenhang mit der Ausstellung Art Deco Luxembourg am Nationalmuseum für Geschichte und Kunst fand ihr, wie gewinnt, um Sit vom Radio 100,7 in dieser Emission. Das Wort gehen wir gleich dem Dr. Robert L. Philipper.
Voilà le contexte dans lequel on s'embarque. C'est une étude de cas sur une période et un lieu très précis, Luxembourg. La ville de Luxembourg, la période de 1859 à 1940. Pourquoi ces deux dates clés? Ben, 59, c'est l'arrivée du chemin de fer à Luxembourg. Et 1940, c'est le basculement dans une autre situation politique, la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Et c'est au cours de cette période-là que se met en place à Luxembourg, le modernisme. D'ailleurs, 1859 rime également avec l'inauguration du Palais de la Nation, c'est-à-dire l'hôtel de la Chambre des députés, qui est à considérer comme pratiquement la toute première construction moderniste à Luxembourg, et je m'expliquerai à ce sujet là-dessus. Ce qui est important de voir, ce sont les promoteurs et leurs idées nouvelles. Qui est promoteur? Quelles sont les idées nouvelles? Quels sont les défis nouveaux? Construire une gare, il n'existait pas de modèle. Construire des écoles pour héberger des milliers d'élèves, suite à l'introduction de la loi scolaire, l'obligation scolaire, ce sont des choses nouvelles. Et ce sont les grands magasins, c'est une émergence nouvelle d'un type de commerce. Il faut trouver des solutions architecturales à ce niveau. Et ainsi, les expositions universelles jouent un rôle important. C'est un échange d'idées, c'est une exposition évidemment d'idées, c'est aussi un réseautage, networking comme on dit de nos jours, qui se fait amplement et un certain nombre d'entrepreneurs sont venus à Luxembourg. D'autres se sont carrément inspirés ou cherchés des fournisseurs par le biais de ces différentes expositions. Mais notre dimension surgit notamment au niveau des matériaux de construction. Qu'est-ce qu'est un matériau de construction luxembourgeois? Ça, c'est une définition politique et économique ou protectionniste de la matière. Et là, dans cette période que nous allons traverser, nous allons constater qu'il y a eu un certain nombre de divergences et de débats et de discussions sur justement ce qu'on qualifie de matériau luxembourgeois. Est-ce la pierre? Est-ce le bois? Ou est-ce aussi le béton? Une nouvelle production qui sera un dérivé de la production sidérurgique. Un programme architectural très varié, je l'ai déjà évoqué avec tous ces différents types de défis. Le choix de l'emplacement des immeubles. Un nouvel ordre économique et politique, cela joue un rôle très important et notamment pour la déco. Il faut se rendre compte que de 1842 au 31 décembre 1918, Luxembourg faisait partie du Zollverein, de l'union de manière avec l'Allemagne. Et la chose la plus importante pour le domaine qui nous intéresse, c'était que les fournisseurs pour la construction venaient majoritairement de ces pays qui étaient membres de l'union douanière allemande. Alors qu'au moment où Luxembourg change de régime économique et entre dans l'union économique belgo-luxembourgeoise, en 1922, lorsque les traités entrent en vigueur, c'est le marché belge, évidemment, qui s'ouvre au Luxembourg et on verra bien que les fournisseurs de la construction, de l'ameublement qui nous concerne pour notre période très précise de l'art déco proviennent tout simplement ou soudainement, je dirais même, d'un autre marché. Il y a des choses qui sont à la base de toute cette évolution et c'est notamment l'évolution des techniques. Le fer qui va entrer grandement dans l'histoire de l'architecture, l'emploi du verre et industriel, le béton avec toute son évolution qu'il va connaître, ce sont les trois éléments nouveaux et qui vont bouleverser la globalité de l'architecture. Et cela va poser également un certain nombre de questions. D'abord, l'ingénieur qui est à la base de cet emploi, notamment des nouveaux matériaux de construction. Rappelez-vous la construction de certains ponts en acier, ferroviaires, de marchés, etc. Ces ingénieurs, est-ce qu'ils sont des rivaux des architectes qui sortent plutôt d'une formation de beaux-arts? Et quelle, dans l'ensemble de ces actions, quelle est la place de l'artisan? Est-ce que ce sont des rivaux, ce sont des opposés ou ce sont au contraire des alliés? Ou est-ce que c'est le chemin qu'on va parcourir ensemble qui va montrer qu'il y a un long cheminement vers une alliance et qui va définir et poser un sacré défi aux architectes qui doivent être à la fois des scientifiques, des gens issus des beaux-arts, des artisans, des économistes, des promoteurs, des scientifiques, tout cela réuni en pratiquement une personne. C'est en fait un métier très important et très difficile en même temps. Mais on reverra bien aussi que l'architecture est toujours liée à l'expression des individus, mais aussi à l'expression des collectivités. Et quand je dis collectivité, c'est bon, on est dans le goût d'une période, oui, on peut bien l'être, mais il y a également un certain moment, et cela va devenir le cas, notamment avec l'interdiction du Bauhaus en 1933, que la politique se mêle fortement, fortement de la culture et de l'expression libre, en fait, de l'architecture. Et le défi, c'est en fait d'atteindre une expression architecturale spécifique grâce à ces nouveaux matériaux de construction. Un autre élément fait nouveau dans cette affaire, c'est la naissance des grandes villes, ou des villes pour le Luxembourg, disons-le comme ça. Il faut construire pour des masses de personnes arrivant en ville, demeurant en ville, travaillant en ville, et cela va bouleverser, on sort du monde rural pour le monde de la ville urbain qui va donc révolutionner l'ensemble de la architecture. Si le titre avait été un peu énigmatique, comme je dirais, c'est que le mouvement moderne, il est également à plusieurs faces. Bon, le mouvement moderne, c'est une architecture qui peut aussi être appelée le modernisme et qui regroupe un certain nombre de concepts différents, dont l'art nouveau, l'art déco, le fonctionnalisme, le rationalisme. Et c'est un style, c'est un mouvement qui se veut clairement en rupture avec le passé, qui combat activement l'académisme auquel on reproche d'être attaché aux cultures figées du passé et fermées aux questions de l'avenir, mais c'est aussi un pied de nez à cette bourgeoisie avec son architecture expressive et ostentatoire que fut dans un certain sens l'historicisme, alors que les choses sont bien plus complexes que l'on pense dans ces problématiques. Et un allié incontournable à quoi on reconnaît le modernisme, c'est la détection s'il y a des matériaux nouveaux de construction, donc le fer, le verre ou le béton, et finalement la rationalisation de l'espace, c'est-à-dire aucun centimètre n'est pratiquement laissé au hasard, aucune expression n'est laissée au hasard. On ne parle plus de l'esthétisme gratuit, tout doit avoir une forme et une fonction. Ça, c'est quelque chose d'important. On va revenir sur ces questions. Donc, le contexte luxembourgeois, 1858, connexion au chemin de fer, inauguration de la gare en 59, comme je le disais déjà, le Zollverein, on va traverser la Première Guerre mondiale, le référendum dont on va retenir le droit d'élection des hommes et des femmes majeurs à Luxembourg, l'entrée du Luxembourg comme choix politique dans la Société des Nations, l'Union économique belgo-luxembourgeoise, je l'ai déjà mentionné, mais également la professionnalisation du commerce, et notamment grâce à la création ou la fondation de la foire commerciale Olympotsberg, les foires internationales, ce qu'on dit de nos jours LuxExpo comme idée, et également les nouveaux médias dont il faut se rappeler la création de la compagnie luxembourgeoise de radiodiffusion à Luxembourg. Mais au niveau de la formation, cela va également se parfaire. Il y a un certain nombre d'éléments auxquels il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire, le point de départ, en fait, c'est l'obligation scolaire en 1881, sur laquelle on va greffer d'abord les écoles d'agriculture et ensuite, en 1890, l'école d'industrie et du commerce. Donc, montrer l'apport des nouveaux matériaux de production et les commercialiser, ça c'est le projet. Mais c'est aussi la création du cercle artistique luxembourgeois, un élément important, un cercle artistique qui est actif jusqu'à nos jours et qui cherche toujours à faire progresser la création artistique au Luxembourg. Bouleversement également avec l'exposition de l'artisanat et de l'industrie. Pour retenir de cet événement majeur, il y a deux choses en fait. D'une part, cette exposition a mis la puce à l'oreille à Paul Eichen, le ministre d'État, pour employer du béton dans la construction du pont Adolphe. Et l'autre idée, cette idée de protectionnisme, les produits luxembourgeois qui vont être labellisés produits luxembourgeois. 1896, création de l'école d'artisans. Pourquoi cette école d'artisans et non pas une école des beaux-arts, mais tout simplement pour que les jeunes apprentis et artisans vont rattraper le retard sur la technologie, les nouvelles évolutions de la technologie et qu'on sache maîtriser ces nouveaux éléments, ces nouveaux matériaux de construction, mais aussi pour valoriser la personne en tant qu'artisan. L'artisan devient artiste. Il va retrouver dans un certain sens son origine du métier de laquelle il était coupé par cette révolution industrielle où les machines commençaient à imiter un certain nombre d'éléments que jusque-là, seul l'artisanat était capable de les faire. Aussi, ce qui est important, on s'organise professionnellement. Les premiers à s'associer, ce sont les ingénieurs en 1897. Mais il y a également cette pensée, je vous disais déjà, le référendum 1919, cette idée de l'égalité des chances en donnant le droit de vote aux femmes et aux hommes, c'est également de prendre conscience de l'importance des femmes dans la culture, et je pense notamment aux travaux d'Antoine Hirsch, le directeur de l'école d'artisans, Die bildenden Künstlerinnen der Neuzeit, et également de plus en plus de femmes qui partent à l'étranger apprendre un métier, une profession à plusieurs centaines de kilomètres du Luxembourg, ce qui fut nouveau. Autre chose, si on produit beaucoup d'acier et que Luxembourg vient à se placer en cinquième production mondiale, c'est qu'il faut aussi vendre ce qu'on produit. Et voilà, il faut bien montrer aussi à quoi ça sert ce qu'on produit. Est-ce que ce sont des rails pour le chemin de fer ou ce sont des ossatures métalliques pour des constructions? On verra bien ce défi. Dans la suite chronologique de cette également émancipation des femmes, et vous avez vu dans l'exposition de l'Art déco à quelle place détient la femme également dans cette expression artistique, il faut mentionner la fondation du lycée de jeunes filles. Sans perdre de vue que déjà avant, il existait l'école ménagère qui préparait les jeunes filles également au métier d'agriculteur, comme Paul Eich l'avait dit en 1893, le premier métier où hommes et femmes sont égaux, c'est l'agriculture. Et c'est également, on va reconnaître officiellement le titre d'architecte. Fini les temps où quelqu'un qui avait une bonne plume ou qui avait un bon savoir pouvait se doter du nom d'architecte et pouvait réaliser de véritables merveilles. On a à l'avenue de la Liberté un certain nombre d'immeubles qui sont signés par des architectes ou des sculpteurs issus de l'école d'artisans luxembourgeois et qui comptent parmi les pièces maîtresses de notre architecture. Cela n'empêche qu'avec les nouvelles formations, je pense à l'école polytechnique, je pense à l'école centrale, je pense aux spécifications du métier d'ingénieur, je pense également au regroupement des Bund Deutscher Architekten en 1903, qu'il y a cette nécessité de s'organiser, tout comme les ingénieurs, au niveau également des architectes. On arrivera aussi à des images, mais il faut passer un certain moment d'infrastructure. Regardez ce tableau, et là vous voyez le bouleversement de la société. En fait, entre 1870, 1907, 1935, 1947, l'agriculture qui diminue dans cette organisation alors que l'industrie progresse jusque dans les années 60, ce qui n'est plus le cas de nos jours, et que les services sont à un niveau relativement bas, avec 20% en moyenne augmentant jusque de nos jours où cela prend de l'ampleur. Mais il y a également, il y a de nombreuses discussions sur la croissance durable, la croissance à l'avenir. Mais regardez un peu les chiffres. Entre 1851 et 1935, la population a progressé de 102 000 habitants. Autant une période aussi longue vue par après, on voit qu'il y a 300 000 personnes qui sont arrivées, sont installées au Luxembourg. Donc Luxembourg avait déjà un certain attrait, mais les chiffres sont faux en ce sens que pour la période de 1851 à 1880 à peu près, Luxembourg est un pays d'émigration. Donc si on avait pu retenir ces citoyens qui nous ont malheureusement quittés, les chiffres seraient plus élevés, notamment pour la première période. Autre question, c'est la mobilité, l'émergence de la mobilité. À ne pas comparer à la situation que nous vivons de nos jours, regardez bien, on est passé en 1936 à 13 081 permis de conduire contre 482 000 de nos jours. Cela explique évidemment un certain nombre de choses, mais Cette émergence va montrer qu'il y a nécessité de construire des garages pour garer sa voiture individuellement, mais également des garages où on peut acheter une voiture, respectivement la faire réparer. Donc ce sont des éléments qui sont assez importants à avoir en tête pour comprendre les défis qui ont marqué toute cette période de laquelle nous parlons ce soir. Commençons à l'historicisme, parce que l'historicisme porte en lui-même la modernité, comme il va se caractériser par l'emploi des nouveaux matériaux de construction. Voir dans l'historicisme que la copie de l'ancien ou la référence à l'ancien, ce n'est que voir la moitié. L'historicisme joue uniquement quand il peut utiliser donc le fer, le verre et le béton d'une forme et d'une autre. Mais cela va poser un certain nombre de questions. D'abord, ces nouveaux matériaux de construction. On était si ravis de montrer la beauté du bois pendant des siècles et des siècles, ou les veines de marbre. Est-ce qu'on peut montrer la beauté d'une poutre en acier? C'est une nouvelle question qui se pose. Mais ça va encore beaucoup plus loin. Une autre question qui se pose, c'est la forme et la fonction. Et déjà en 1828, Heinrich Hübsch, un professeur à Karlsruhe, qui est un lieu qui a imprégné un certain nombre de luxembourgeois qui ont étudié là-bas, il va poser la question: dans quel style allons-nous construire? In welchem Stil sollen wir bauen? Ça sonne peut-être un peu bizarre comme question, mais ça montre tout comme débat. Tout d'abord, l'esthétisme d'un immeuble est une question de choix. Et quelle en est de la fonction? C'est-à-dire, l'immeuble peut avoir une autre fonction que son expression. Et du coup, l'expression artistique d'un immeuble peut devenir comme un vêtement et qu'on met pour s'embellir. L'historicisme va créer de magnifiques façades cachant la misère des plans par derrière, pour emprunter les critiques des modernistes. Mais comment représenter une gare? Comment reconnaître un hôtel des postes? Comment ne pas confondre une école avec un musée ou un hôpital? Donc, il faut inventer tout ce langage de la forme et de la fonction. Mais on reste encore très ancré dans le passé, notamment agricole, avec son fort attachement à la terre. Et là, les personnes, les propriétaires des immeubles, cherchent très souvent à s'identifier à l'immeuble. Pour l'historicisme, c'est très souvent l'idée de se représenter d'une façon idéale ce qu'on en pense vouloir être, ou montrer tout simplement dans une société de migration et d'urbanisation où commence à régner l'anonymat dans les villes, de dire « voilà, regardez les beaux matériaux que j'ai pris pour la construction de mon immeuble, disons de commerce, regardez la volumétrie que j'ai choisie, regardez l'ampleur des décors et les décors qui rappellent ça de telle ou telle différente période. » Ça devient un signe d'expression, de personnification. Et en plus, je rajoute mon monogramme pour que vraiment, même après mon décès, on se rappelle bien qui en fut le propriétaire. Ce n'est pas l'immeuble conçu à, disons, Dubaï, vendu à Londres et construit à Luxembourg pour être reloué ou revendu. C'est la personnification de l'immeuble. C'est moi. pratiquement. C'est ça l'idée. Les styles néo sont utilisés sous différentes formes, le néo-gothique, le néo-baroque, etc. Mais chaque style épousant une fonction, respectivement un milieu de pensée, et l'ensemble va fusionner d'une façon darwinienne dans l'éclectisme qui se veut le sommet de l'ensemble et qui montre également dans ce sens-là qu'on est au summum et qu'il faut vraiment maintenant faire sauter les limites et recommencer pratiquement à nouveau avec les nouveaux matériaux de construction. Il ne faut pas oublier non plus qu'avec tout cet ensemble des nouveaux matériaux de construction, déjà en 1851, c'est Paxton qui invente avec le Crystal Palace pratiquement le premier meuble clé en main, fabriqué sur des pièces qui sont livrées tout simplement sur place et montées sur place. Voilà, on arrive quand même à des images. Et comme je disais, l'hôtel de la Chambre des députés, le Palais de la Nation, comme on l'appelait dans les archives à ce moment, ce fut le premier immeuble de style historiciste. Et qu'est-ce qu'il représente en ce sens-là, ce style troubadour, comme certains l'ont dénommé? Il montre plusieurs choses. D'abord, c'est un solitaire, comme vous voyez, il n'est pas encore adossé au palais. Il a une toiture plate, ce qui était quelque chose de nouveau, pas entièrement plate comme on l'a construit de nos jours, mais une toiture cachée pratiquement, et la fonction est affichée par les anges qui décorent la corniche, et dans chaque ange représente, après de longs débats évidemment, une facette de l'immeuble, respectivement la reine, comme on le voit ici, le sceptre et la couronne, un autre la loi avec le rouleau des lois en main, l'autre la prospérité. Qu'est-ce que je m'attends de ce pays, qu'est-ce que je m'attends de la fonction de cet immeuble. De même, les nouveaux matériaux de construction font une joyeuse entrée, on pourrait dire, avec la construction d'un certain nombre de bâtisses, telles que le Schriftstellerheim au Limpotsberg, occupé de nos jours par l'école d'artisans, un lycée technique des arts et métiers, et qui montrait, malheureusement la bibliothèque n'existe plus, une magnifique bibliothèque avec éclairage zénithal, entièrement montée, comme vous voyez, en acier, avec les escaliers, les rayons de bibliothèque. C'était un fournisseur strasbourgeois qui, à l'époque, venait monter cela, et quand l'immeuble a été vendu, on a tout monté et ramené aux Pays-Bas. Donc c'est le clé en main en fait qui entre son entrée. De même, pour le palais de l'Arbette, c'est une grande question, comment le revêtir, dans quelle pierre, avec quel décor. Les décors vont arborer le nom de l'Arbette, ils vont reproduire des décors en liaison avec la production de l'acier, respectivement la vente de produits qui servent à l'agriculture, mais qui sont produits dans la sidérurgie et qui servent à orner l'immeuble pour exprimer ce que l'entreprise produit, pour ne pas le confondre à une résidence d'un prince, respectivement un musée ou une autre fonction. Grand scandale naît à Luxembourg au moment de l'école de commerce et d'industrie, au Limpotsberg, notamment avec la construction de la salle des fêtes, donc la salle majestueuse, la plus importante de l'école, et qui va également servir de salle de gymnastique, et qui sera construite en béton avec des nervures, des voûtes et des maillages en fer, et qui fut quelque chose d'assez nouveau et bouleversant. De même que l'utilisation de la brique nue, on pense à la Bauakademie de Schinkel, également l'utilisation de l'acier comme poutre au-dessus des fenêtres. Bref, on montre la beauté des nouveaux matériaux de construction, y compris la brique, suite au traité d'utilisation de la brique de Nogaret de 1777. Donc, il fallait instruire les jeunes de l'école d'industrie et de commerce à se servir et à apprécier la beauté des nouveaux matériaux de construction qui, en plus, étaient bon marché. C'était toujours un exemple important. Mais la résistance face au nouveau, comme de nos jours, c'était pas différent. Un certain nombre de personnes étaient scandalisées de voir cette construction et se sont plaints auprès du ministre des Travaux publics qui a immédiatement demandé à Zostin Weiss, architecte de l'État, à se rendre sur le chantier, ce que Gustave Serta était en train de faire. Et pour calmer les esprits, Zostin Weiss a dit « Mais ne vous inquiétez pas, c'est du gothique modernisé. » Et le ministre disait qu'il n'était pas au courant. Pas. Autre élément, on arrive grâce à ces nouveaux modes de construction, à des coffrages, à l'utilisation donc du béton, à renoncer à des façades. Et renoncer à des façades, c'est justement pour instaurer le grand magasin. Et le grand magasin ne se mesure pas au mètre carré, il varie à Luxembourg entre 300 mètres carrés et 1500 mètres carrés, ce qui n'est pas énorme par rapport à un printemps ou à un Tietz, comme il s'appelait encore à l'époque, mais c'est un concept, c'est un lieu de déstockage de produits finis, ce n'est plus le commerce artisanal où on produit des éléments. Et cela fait donc un lieu de déstockage, un lieu d'exposition en permanence de nouveaux produits et de nouveaux arrivés, de produits et d'exposition. C'est-à-dire, en tant que citadin, je dispose, et l'Organisation sociale du travail, je dispose d'un temps libre où je peux flâner en ville, découvrir les étalages et un temps de travail où je suis au bureau, à l'industrie, où j'ai mon travail au moment. Et ici, donc, on peut montrer jour et nuit ces produits. Et à partir de 1913, ces fenêtres seront en plus illuminées. Et les annonces publicitaires, quelque chose de nouveau également qui va apparaître avec le commerce, le grand commerce qui va établir des prix fixes et établir, permettre l'échange de produits, on va dire d'un ton relativement sec, Besichtigung unserer Schaufenster erbeten, hein, dans ce style-là. Et on va demander, donc, dire, mais venez voir nos étalages pour la Saint-Nicolas, pour la Sainte Communion, nos belles robes, pour l'Octave. Et chaque fois, donc, la façade est remplacée par les étalages grâce au nouveau matériaux de construction qui permettent justement de renoncer à la façade. Puis, avant d'arriver à l'Art Nouveau, restons un instant, concentrons-nous sur notre pont Adolphe, dont vous avez sans doute visité l'exposition de l'année dernière au musée de Reichlen. L'essentiel pour le pont Adolphe, c'est de sentir le terroir, comme disait Paul Eichen à la Chambre des députés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sentir le terroir? Les politiciens ont souvent de belles expressions, mais il faut creuser qu'est-ce qui se cache derrière. Bon, sentir le terroir, c'était certainement rassurer les propriétaires de carrières, qui d'ailleurs étaient établis socio-juridiquement en Belgique. Ça, comme petit clin d'œil à ces affaires, mais en tout cas, les pierres étaient luxembourgeoises. Mais en même temps, ce sont deux voûtes reliées et dont la passerelle de nos jours, qui est actuellement fermée, vous permet de découvrir le caractère nouveau de cet ouvrage d'art en montrant les arches la plus étendue du monde à l'époque, mais qui a permis donc de relier les deux voûtes par un tablier en béton. Et ça, c'était l'idée qui était suggérée à Paul Eichen au moment de cette exposition, où le propriétaire des usines de rue Melange avait exposé une grotte dans la cour de l'école Aldringen au boulevard Royal, une grotte qui, à la fin de l'exposition, était offerte à Paul Eichen. Imaginez-vous qu'on vous offre une grotte en béton, avec un petit étang, une fontaine, un Saint-Michel au-dessus, plus grand que nature. Qu'est-ce que vous en allez faire? Eh bien, Paul Eichen avait compris le message que l'avenir était également dans les dérivés de la sidérurgie, c'est-à-dire aussi dans le béton. On va se bagarrer et discuter sur le ciment ou c'est du béton précontraint ou autre, et finalement on va arriver à des experts, Paul Séjourné d'une part, constructeur de nombreux ponts et auteur également d'un traité sur la construction des arches, respectivement Edmond Coignet, qui fut reconnu par l'Académie de France pour ses inventions dans le béton. Donc cet ouvrage est vraiment dans le pur historicisme et il y a encore un élément. Paul Eichen avait pris le dossier, il s'est rendu à l'école d'artisans et a dit « Eh les gars, vous étudiez la sculpture, nous voulons représenter le Luxembourg, que proposez-vous ?» Et là aussi, c'est nouveau, ça fait partie du modernisme, de responsabiliser l'artisan, de l'inclure. Jusque-là, l'artisan, au 19e siècle, était l'exécutant pur et simple de l'architecte, que ce soit pour le design d'une chaise qui devait ameubler un hôtel des postes, ou que c'était une poignée de porte, tout était conçu par, comme Gesamtkunstwerk, par l'architecte. Maintenant, avec les idées modernes, c'est l'artisan qui peut prendre une part active et être un co-décideur de ce qui se passe. Thank you. Arrivons-en à l'étape suivante de l'art nouveau, parce que l'un est imbriqué dans l'autre. Dans l'architecture nouveau devient une expression des beaux-arts ou une expression de la science. C'est déjà beaucoup plus difficile. Vous voyez, on chemine de plus en plus vers cette approche de la science et de la raison. Et c'est aussi une réaction. Je disais déjà contre cet académisme fermé sur l'avenir, ouvert sur le passé. Et on se dit, eh bien, il faut un échappatoire. Et ça, c'est nouveau. Ce qui va fonder également le modernisme dans le sens de l'abstrait. Je ne veux plus rentrer dans ce débat du néo-gothique, du néo-baroque, des styles orientaux. Je veux me placer au-dessus de toutes ces bagarres et de ce régionalisme et de cet internationalisme qui se chasse tous les jours. Je m'inspire maintenant de la nature. Je sors du débat. Ça va caractériser le modernisme, le style international, comme on va l'appeler à partir de 1932, qui va se placer aussi comme instance neutre au-dessus de tous ces débats entre les différents points. Autre chose, l'art dans tout et pour tous. Si je dis l'art dans tout, c'est le Gesamtkunstwerk. C'est on demande que les architectes deviennent des industriels d'art, c'est-à-dire se servent aussi bien de l'art et de la production industrielle et pour tous. Pour se rappeler les idées de William Morris et John Ruskin, qu'il faut répondre aux questions de logement, logement notamment également des classes ouvrières, des masses ouvrières, répondre à tous ces besoins sociaux également par une réponse architecturale. L'importance du jeu de couleurs. L'importance du jeu de couleurs, c'est quelque chose de très important. Jusque-là, l'académisme et le néoclassicisme prônaient l'harmonie, le temps sur temps, un certain conformisme. Maintenant, à l'art nouveau, non, je suis un solitaire, je suis un cas unique, je suis l'autoreprésentation, je vais utiliser des pierres rouges. Je vais utiliser des pierres rouges et des pierres blanches. Je vais utiliser des briques rouges et du grès. Je vais casser cette monotonie de la rue. Cela va nous conduire beaucoup plus tard à ces solitaires placés sur une immense place où l'immeuble est vraiment une représentation d'idées, d'une représentation d'une instance. Mais ici, on commence à se voir comme donc un élément à part. Et afficher la fonction. Voilà, on réagit contre cette misère de l'historicisme qui cachait derrière des façades rigides, contre les façades considérées comme élastiques de l'art nouveau, l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, on peut lire de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur et la rue pénètre de l'autre côté vers l'intérieur. C'est-à-dire, il y a une harmonie entre extérieur et intérieur et plus un jeu de cache-cache par des façades. C'est-à-dire, sous l'historicisme, on a de magnifiques façades qui masque ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, on cherche à montrer ce qui... On est transparent, on montre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Après, on va venir à des façades rideaux ou des façades accolées, placées dessus, et on va masquer à nouveau ce qui va se passer à l'intérieur. Mais ici, on affiche la fonction avec les bow windows. On peut lire vraiment sur la façade ce qui se passe, et ainsi, l'immeuble devient une œuvre d'art. Et certains sociologues disent d'ailleurs que les amateurs d'art nouveau étaient des gens très positifs, parce qu'ils représentent le mouvement qui est typique à la nature et non pas la façon rigide d'une ligne mathématique, et que cela exprimerait une certaine joie de vivre en mouvement. Cela est aussi quelque chose d'être moderne et de surprendre le public dans l'espace public qu'est la rue. Les matières premières sont importantes. On se sert de ces matériaux modernes. On se sert du fer forgé, mais on va le travailler de façon artisanale. On va créer des verrières, mais on va les créer à de magnifiques verres en plomb avec des verres aux différents coloris. Et on va privilégier les matériaux locaux, les mettre en valeur, le bois local, la pierre locale, mais aussi le crépi des façades, parce que le ciment a reçu le label de produit luxembourgeois par le gouvernement. Le Made in Luxembourg, ce sera beaucoup plus tard, mais l'idée du produit luxembourgeois à donner au ciment comme nouveau matériau de construction n'est pas un choix innocent. Et c'est ainsi qu'on met en valeur le savoir-faire industriel, respectivement artisanal, pour réaliser une prouesse technique, pour reprendre l'expression de Ausländer, un expert en thermalisme, qui était sollicité à Luxembourg dans un procès sur la construction de la Badanstalt, les bains municipaux, et où finalement, après tous les problèmes qu'il avait vus, il a dit « mais ce bâtiment est une prouesse technique ». Ce qui est important, c'est aussi de voir cette ouverture du Luxembourg sur ces idées nouvelles. Et Hans Kutschtuff, le salon de la ville, la place d'armes, est le meilleur exemple d'illustration de notre société. Alors qu'en Belgique, lors de la reconstruction après la Première Guerre mondiale, l'art nouveau était interdit dans l'aménagement des centres-villes historiques, à Luxembourg, dès 1894, on construit à la place d'armes des immeubles art nouveau. On construit, Nicolas Schmidt-Neusen va construire le salon de coiffure Brauers, plus tard Pisacki, pour ceux qui se le rappellent, c'est, je crois, aujourd'hui, le restaurant La Boucherie, pour vous situer, dans un modernisme très, très, très audacieux, respectivement l'historicisme qui était affiché à côté par le grand café, dont la façade, telle que nous la connaissons de nos jours, a été simplifiée au cours des années 50, sous la direction de l'architecte Pierre Gilbert. C'est art nouveau. Il faut se mettre à l'évidence qu'à Bruxelles, entre 1894 et 1918, 5% des nouvelles constructions étaient érigées en art nouveau. Nous comptons 5 bâtiments art nouveau à la Grand Rue. On ne peut pas être plus ostensible en avance cela. Et d'ailleurs, les candélabres étaient conçus à Luxembourg, Luxembourg Construction, Sperk de Merle, et qui était un art nouveau très hortarien, je dirais, et qui était affiché, on peut le voir aussi bien sur les plans, mais également sur les photos conservées à la photothèque, qu'on plaçait à la rue de la Reine. Pas dans une rue cachée, dans un quartier périphérique, non, au plus central. Comme en fait les lampadaires de nos jours, les infrastructures d'Ingo Maurer également, montrent un aspect nouveau de l'art et de l'illumination dans la ville. Ici, rappelez-vous ce que je viens de dire sur le jeu des couleurs et également l'importance du décor en mouvement et qui va tout allier les boiseries, le verre, tout ensemble, les graphites sur la façade derrière, la brique, bref, tout ce qui est possible. Mais c'est aussi une nouvelle façon de vivre à la périphérie, dans les petits hôtels de ville qui se construisent comme celui-ci à la Route Tèche, où on voit très bien que l'architecte est aussi un artiste. Et quand je dis à l'architecte est aussi un artiste, je me réfère une publication que j'ai publiée au Centre national de littérature sur les activités artistiques de nos architectes. Et voilà, je vous en cite quelques-uns, tout simplement. Zostein Weiss, certains de vous sont peut-être des collectionneurs ou des amateurs de ses aquarelles. Antoine Hartmann a dessiné aussi, Paul Vugreux également, Antoine Hirsch a produit de la littérature, Robert Lenz a fait de la littérature et du design, Mathias Martin a exercé plusieurs disciplines allant de la poésie jusqu'à l'histoire, jusqu'à donc le dessin également. Charles Arendt, un multiple talent également. Également Camille Frieden aussi. Et je signale pour parmi toutes ces activités deux ouvrages d'Antoine Hirsch, donc le directeur de l'école d'artisans, Bau und Wohnprobleme der Gegenwart, 1914. Donc 1914, Bau und Wohnprobleme der Gegenwart. Le problème du logement ne date donc pas d'hier, mais de plus d'un siècle. Ou la kurzgefasste Stilkunde für Handwerker und Kunstgewerbe, le Schüler, de 1927, également de la plume d'Antoine Hirsch. Avant de passer donc à quoi pourquoi vous êtes venu essentiellement, l'art déco, encore un mot sur l'art nouveau et Mathias Martin, qui était issu donc de la formation de l'école d'artisans. Il a eu un brevet en 1921 qui s'appelait Neue Bauartsystem et qui a permis d'utiliser le béton et la brique dans la construction de ses immeubles. Et lui, il était très attaché aux réalisations de l'artistenkolonie de la Mathildenhöhe à Darmstadt. Arrivons à l'art déco, eh bien, tous ces débats que je viens de citer continuent. Ils continuent, se renouvellent. Et chacun cherche, avec sa génération, à apporter de nouvelles réponses aux anciennes questions. Et c'est ainsi qu'en 1925, et vous l'avez appris en visitant l'exposition, que le nom Art déco vient en fait de cette exposition « Les arts décoratifs et industriels » de tenue à Paris. Et déjà ce titre, il dit tout. Il dit tout ce que je viens de dire. « Les arts décoratifs et industriels ». Donc « art, décor, industrie », les grands problèmes ou grandes questions qui se sont dessinées au cours de pratiquement 100 ans. La faune et la flore restent des sources d'inspiration, donc on est encore très proche de cette nouvelle idée de la nature qui prend de l'ampleur dans l'art nouveau. Mais c'est aussi un style qui annonce l'esthétique de l'abstraction. C'est un jeu marquant de volume, un jeu de couleurs, ça reste, la pureté des formes, et on cherche à dégager l'essentiel du mouvement. Et là, je me rappelle toujours cette note que j'ai trouvée dans une biographie d'Henri Van de Velde, qui, en voyageant en direction de la Kunstgewerbeschule à Weimar, quand je suis dans le train et que je vois passer les paysages, ces paysages dilués en lignes horizontales et verticales. Mais essayons de faire autant dans l'architecture, de nous réduire à l'essentiel, de venir à la beauté de l'essentiel et cherchons à le faire de la meilleure façon possible. Et l'art déco se veut aussi opposé à cet art industriel, toujours ce qui est issu de la machine, c'est cette copie qui peut être issue de la machine. Mais il y a plusieurs mouvements, rien n'est simple dans la vie, également dans l'art déco, on peut regrouper le cubisme, le style zigzag qu'on va découvrir, le mouvement de la rose pétrifiée, mais toujours, tout est caractérisé par la recherche de la simplicité de la ligne droite, par opposition à cette opulence, ce dernier retentissement baroque que fut l'art nouveau, et les dessins géométriques. Commençons par les immeubles de commerce, les meubles de mobilier, du palais du mobilier, de 1926 par Léon Bouvard. La chose n'est pas innocente du tout. D'abord, le palais du mobilier, la société de Bonnes Frères, était spécialisée non pas dans la création de meubles, mais dans la vente de meubles comme produits finis ou montables, comme les chaises tonnées qu'on pouvait assembler pour les vendre, pour également donner l'accès par le mobilier à toutes les couches sociales du pays. Et ils ont un souci d'éducation. C'est ainsi qu'ils sortent un journal qui va sortir pendant 2 ans, Die Wohnung der Neuzeit, et dans laquelle on trouve pas mal de contributions de personnes comme August Fritz Breuhaus, par exemple, du Bauhaus, et où on trouve des articles, oui, votre maison doit être bien éclairée, il faut l'électroménager pour vous faciliter l'étage, il faut veiller à ne pas avoir des meubles avec trop d'ornements pour ne pas avoir trop de poussière, on vous éduque aux arrangements de fleurs, le placement des vases, pour que vous vivez d'une façon saine. Donc il y a une certaine responsabilité. Donc qui sont engage de telle façon, va produire également un siège d'entreprise qui ne va pas uniquement répondre à la fonction, mais également traduire ses valeurs. D'abord, pour l'immeuble imposant, eh bien oui, imposant et solide, construit avec du béton armé également, par Léon Bouvard, qui était sollicité parce qu'il avait dressé des plans pour des foires internationales à Luxembourg, plans qui n'avaient jamais été exécutés. Et cet immeuble, il devait pouvoir exposer 80 salons, chambres à coucher, salle à manger, etc. Donc tout ce qui fait partie de l'ameublement, y compris des comptoirs de café, des frigos également. Donc solidité et une maison d'exposition. On prend l'ascenseur, merveilleusement bien conservé au musée d'histoire de la ville, et on voyage dans le temps. Et dans les annonces, on lit « entrée gratuite », c'est-à-dire c'est un lieu d'exposition. Je voyage d'un étage à l'autre dans un univers différent, dans l'univers des chambres à coucher, dans l'univers des salles à manger, etc. Bref, donc on peut découvrir cela, les étalages, le rez-de-chaussée qui est éclairé également, donc une construction solide qui permet d'évider ces éléments. Remarquez les deux lanternons à gauche et à droite du pignon. Donc, on lie l'électricité à cet immeuble. Ici, également, donc, les lieux d'étalage avec les caractéristiques de la rose pétrifiée, un élément qu'on va retrouver à plusieurs reprises. La rose pétrifiée, un de ces décors inventés par Paul Héry, un ancien ami de Coco Chanel. Donc, vous voyez les liens qui se créent au niveau du parfum, du vêtement, du design, que tout devient imbriqué. Et le top du top, sur cet immeuble, il y avait, grâce au béton évidemment, il y avait une terrasse avec 2 vérandas. Et là, imaginez-vous, au 7e étage, au-dessus de la ville, on vous vendait du mobilier de jardin. Vous pouvez essayer des chaises en rotin et avoir un panorama de la ville. Donc l'immeuble prend un caractère marketing aussi grâce aux nouveaux matériaux, grâce également à ces verrières qui étaient placées au-dessus. Thank you. De même, un bâtiment qui a disparu, un agrandissement. Et là, ça c'est typique aussi pour Luxembourg, vous allez le voir, mais pas uniquement pour Luxembourg. L'immeuble du Crédit Lyonnais était en réalité une villa qui ne faisait que la moitié. Et cette moitié-ci a été rajoutée dans un style identique par George Strauss et un portique a été aménagé devant. Donc on est très sage, on est très conformiste dans l'historicisme. Pour rappeler encore une fois, revenir encore une fois à ce scandale de l'école d'industrie et de commerce, la seconde école d'industrie et de commerce qu'on a construite à Esch-sur-Alzette est dans un style des beaux-arts aussi conservateur qu'on puisse rêver, parce qu'on n'osait plus revenir à ces débats sur l'emploi de la brique, de l'ostentation du béton, de l'acier, etc. Ici, donc, on se montre très, sauf mot pour le logo du Crédit Lyonnais, cette agence qui vient s'établir au boulevard Royal, qui devient, après l'adhésion à l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le boulevard des assurances et des banques, déjà à l'époque. Mais regardez un peu où on est caché. Certains se rappellent encore, sans doute, la porte d'entrée, qui seulement avait été enlevée dans les années 70. Je me la rappelle encore très bien. Elle existait bel et bien dans cet état. L'intérieur, la rampe qui monte et le lustre qui a été également fait en design. Donc là, on devient très ostentatoire. Là où c'est qui peut entrer chez moi ? Pas tout le monde qui passe dans la rue, mais mes clients. Et je sais que mes clients ont des hautes valeurs. Et ces valeurs, je les transmets également dans l'architecture. De même, il faut être représentatif dans la construction du logement social et chercher de nouvelles formes d'expression, utilisant le moins possible la pierre, mais surtout les produits les moins chers. Un de nos joyaux de l'art nouveau en style zigzag, monument protégé, pour vous rassurer, même si le bâtiment n'est pas utilisé pour l'instant, c'est l'hôtel Alpha de Gustav Schuppen et que sur les plans de Léon Bouvard, mais Léon Bouvard était décédé en dessinant, en travaillant inopinément sur le projet. Ce bâtiment se caractérise par ses triangles, par ses mouvements de vagues sur le fer forgé qui s'allie à la pierre de taille, les éléments géométriques. C'est aussi un bâtiment élevé avec ascenseur et qui va proposer 200 chambres, dont 100 avec salle de bain et des salles de réunion et 100 garages, quelque chose de fort important en ville. Autre joyau de l'historicisme, c'est un trailer pour la prochaine conférence d'Antoinette Lorrain sur l'architecture. L'architecture d'hôtellerie et les hôtels de l'art déco dans l'hôtellerie, l'hôtel Carlton de Mathias Martin de 1926, avec un éloge également à l'histoire du Rhinat, donc l'hôtel date de 26, le bâtiment célèbre en 27, donc l'anniversaire du centenaire du Rhinat, avec des représentations de scènes ici, donc de la fable de Michel Rodanche. Regardez la géométrie des lignes, le caractère très abstrait que prennent les décors. De même, Louis Rossi, qui fut un Suisse, qui est venu dans le sillage d'Achille Giorgetti au Luxembourg et qui, jusqu'à 1939, a contribué essentiellement à l'art déco luxembourgeois, a construit l'hôtel Select à la rue de Strasbourg et la photo de l'intérieur. Comme j'ai dit, c'est un trailer pour la prochaine conférence. Regardez le vitrail, le décor au palmier, la moquette au sol, tout cela est nouveau. La moquette est un produit industriel. Et puis, rassure-toi Antoinette, je vais arrêté avec cette dernière image. C'est un projet de réaménagement de l'hôtel Star à la bifurcation de l'avenue de la Gare et de l'avenue de la Liberté, ceci côté de l'avenue de la Gare. L'hôtelier était condamné à supprimer sa véranda parce que les trottoirs étaient élargis et il devait se donner une nouvelle devanture. Projet qui a réussi à se terminer par l'abandon de l'hôtel Star comme établissement hôtelier. Et voilà un projet donc de Strauss avec les fenêtres guillotines qu'on voit le fer forgé de la porte qui marque donc une ligne très très sobre. À la rue du Fort Nyperch, on découvre ce magnifique bâtiment construit en béton et qui montre cette audace de nouvelles formes. Ensuite, le casino remonte à 1880, l'immeuble à 1882, il a été agrandi à plusieurs reprises. La dernière fois, en 1932 pour l'intérieur et pour l'intérieur aussi pour la salle des fêtes, parce que le théâtre de la ville, l'actuel Capucine Théâtre, était considéré comme le moins sûr de toute l'Europe et qu'il fallait chercher donc à offrir d'autres salles de spectacle, dont le Pôle Nord et le casino. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas uniquement l'aménagement des plafonds en cassette, les éléments très géométriques de la salle des fêtes, mais c'est surtout le mouvement revenant de la rampe d'escalier qui est conservée de nos jours. Et cela pose la question essentielle et nouvelle. Un élément a été dessiné, mais quel est l'original ? Ils sont tous originaux. Et c'est ça la nouvelle chose. Ce que je crée n'est plus quelque chose d'unique, mais ce que je crée existe dans la reproduction. Donc je ne peux pas dire un panneau est mieux, une meilleure cote ou une différence avec l'autre. Donc la création artistique épouse la production industrielle. Ce fut quelque chose de bouleversant également, entrant donc chacun peut se permettre d'acquérir, parce que ça va baisser les prix, chacun pouvait avoir accès à l'esthétique, aux choses les plus marquantes. Un bâtiment souvent passé inaperçu, c'est l'hôtel des assurances sociales à la rue Saint-Tite, agrandi par Georges Strauss, ou encore un autre hall malheureusement disparu aussi, c'était le hall des assurances centrales de maladie à la rue de Strasbourg, avec cette coupole des cubes en verre, ces lampes Bauhaus, cette recherche de la noblesse du matériel qui reprend les guichets, cette recherche d'illumination des lieux de travail. Vous avez le soleil qui entre sur tout, la luminosité. Et d'ailleurs, Luxembourg fut une des premières en 1937. On lançait les Lichtwochen à Luxembourg en janvier 1937. Fut une des premières villes à se doter d'un plan d'éclairage et d'illuminer un certain nombre d'édifices et d'avenues du centre-ville. Un de nos joyaux, construit en 1933 au Piquet, mais dont j'ignore malheureusement l'architecte, si quelqu'un le connaît, merci de me le signaler, qui montre un nouveau type de construction, donc l'immeuble avec ascenseur, l'immeuble avec pièces communes, services communs, et également des placards, des appareils électroménagers, nouveau style de vie, des appartements à quatre chambres, des loggias, et cette sculpture à la rose pétrifiée. De l'autre côté du bloc, un art déco tout à fait différent, tout à fait simple, sobre, réalisé par Norbert Biever en 32, qui avait fait la Technische Hochschule de Darmstadt et qui revient également avec le béton qui montre pour les balcons, le fer forgé, des corps très abstraits. La loggia en haut, le roof garden va être quelque chose de très très important et dans le sillage de ces immeubles construits sur l'emplacement de l'ancienne caserne d'artillerie, c'est donc cet immeuble aux singes avec des singes donc représentés également par Auguste Raymond sur un immeuble de Hubert Schumacher, encore une fois ce duo qui se connaissait d'ailleurs, des artisans et des architectes travaillaient souvent ensemble. Venons-en à la conclusion, la formation donc à l'étranger donne des connaissances importantes et crée ce réseautage. Le programme architectural a fortement évolué vers de nouvelles créations, les cinémas, les logements sociaux, les premières aérogages, salles de luxe sera construit plus tard. L'architecture devient une volonté d'expression indépendante. Pensez à ces pavillons qui affichaient un modernisme audacieux, à ces immeubles, hôtels et commerces aux emplacements de choix. Et l'architecture s'émancipe de ses racines des beaux-arts pour devenir une véritable science et technique. L'embarras du choix, la pierre locale, les nouveaux matériaux de construction, le préfabriqué, la beauté des matériaux. On parvient à les afficher. Les meilleurs emplacements sont réservés pour l'architecture nouvelle, une nouvelle image de marque du Luxembourg, et l'hygiène prime depuis le 19e siècle et est marquée également par les appareils électroménagers et les placards. Voilà, je vous remercie beaucoup. Excusez-moi d'avoir dépassé le temps.